Une société divisée est-elle inévitable pour un avenir en commun? Comment lutter contre les extrêmes? Faut-il composer avec l'extrême droite? Ces questions ont été au cœur d'une conférence organisée par le Bureau des étudiants et étudiantes administrateurs et administratrices de l'ULB. Edoui Plenel, journaliste et fondateur du média d'enquête indépendant Mediapart, était l'invité pour parler de son dernier livre, L'appel à la vigilance face à l'extrême droite. Vous êtes le 25 avril 2023 au campus du Solbosch de l'ULB. Adam Assaoui du BEA anime la soirée.
Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses sur le thème très actuel de la lutte contre l'extrême droite. Et avant de commencer, j'aimerais juste resituer un peu comment ça se fait qu'on soit ici, si nombreux. En fait, avec quelques étudiants et étudiantes, on s'est retrouvés. Je pense notamment à Arzu, Emila, Johanna et Étienne. Et on s'est dit, mais en fait, il y a quand même une montée de l'extrême droite dans les discours, dans le monde politique, dans le monde médiatique, et ça nous fait un peu peur. Et donc, on a pris exemple sur la coalition 8 mai, dont le logo est juste là, et que vous connaissez peut-être, qui rassemble des syndicats, des associations, du monde associatif, du monde académique, sur le thème de la lutte contre l'extrême droite et contre le fascisme, et qui a pour mission et pour but de, entre autres, refaire du 8 mai un jour férié, parce que c'est un jour férié en France, mais ce n'est plus un jour férié en Belgique, malheureusement. Et donc, avec le BEA, la CE, l'AIC, le Librex, l'USE, les jeunes CSC, le cercle LGBTQIA+, le Binabi, Comac, Amnesty, la FEF, l'Union des étudiants juifs de Belgique et la Fédération des jeunes musulmans, on s'est mis d'accord pour se lancer sur un cycle d'événements pour lutter contre l'extrême droite. Hier, on a eu un village associatif sur cette question et aujourd'hui, on a donc cette conférence. J'aimerais juste vous inviter à scanner le QR code parce que le 7, avec la FEF, on organise des départs groupés vers Brendonck où il y aura des commémorations qui sont organisées. Vous le savez peut-être, Brendonck, c'est un camp de transit qui date de la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour nous, c'était important d'allier jeunes et moins jeunes pour cet événement. L'événement d'aujourd'hui est organisé par le BEA, le Bureau des étudiants et étudiantes administrateurs et administratrices, beaucoup de points médians, qui est donc le conseil étudiant de l'ULB, qui réunit les représentants étudiants et les représentantes étudiantes sur différentes questions et qui vous représente auprès dans les commissions de l'ULB, auprès de la rectrice, auprès de la ministre, etc., et pour lesquels vous êtes amené à voter tous les ans. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Edu Plenel, président et fondateur de Mediapart, que je laisserai peut-être se présenter, même si je pense qu'on le connaît tous.
Bien, bonjour à toutes et tous, et pardon du retard, mais j'ai compris que ça vous a permis de profiter d'un moment convivial. J'avais simplement un article à terminer pour Mediapart. Que dire ? Je suis journaliste. Depuis bientôt un demi-siècle, j'ai fait du journalisme un engagement radicalement démocratique, dont je suis prêt à rendre compte devant vous. Et l'accomplissement de ma vie, peut-être, s'appelle Mediapart.
Et vous avez sorti un livre très récemment qui s'appelle « L'appel à la vigilance ». Je dois dire qu'on était assez contents et heureusement surpris, parce qu'on s'est dit on va faire plein de trucs sur l'antifascisme et la lutte contre l'extrême droite, et bam, Edu Plenel nous aide et sort un livre sur la question, pile quand on commence à se réunir. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi, comment, pourquoi ce livre, comment cette lutte ?
Ce livre est une affaire franco-belge. Ce livre a été suscité... J'avais ce projet, mais le fait de le faire dans ces délais-là a été provoqué par le décès d'un ami cher qui est né à Anvers, il résidait à Bruxelles et à Paris, et qui avait la double nationalité belge d'abord, puis française. Maurice Hollinder, qui était historien et un très grand éditeur, il a dirigé une grande collection, créé une grande collection qui existe toujours aux éditions du Seuil, la librairie du XXe siècle puis du XXIe siècle. Donc Maurice Hollinder a été rattrapé par une vilaine maladie et bon, il est parti tranquillement dans son sommeil, mais un peu trop vite, sans prévenir. Et dans les derniers moments, c'était un ami proche. Je lui avais fait la promesse de rendre hommage à une initiative qu'il avait eue Il y a 30 ans, exactement cette année, le 13 juillet 1993, un appel à la vigilance qui était paru dans le journal où je travaillais à l'époque, Le Monde, signé par 40 personnalités de la vie intellectuelle française et européenne. Et c'était un appel sur la banalisation des idées d'extrême droite dans l'espace public, dans le monde médiatique, dans l'espace éditorial. Le fait qu'on s'accoutumait à ces idées que je vais bientôt définir. Et donc Maurice avait lancé cet appel qui a été signé par des gens comme Jacques Derrida, comme Pierre Bourdieu, comme Umberto Eco, comme Nicole Laureau, comme Michel Perrault, comme Françoise Héritier. J'en oublie puisqu'ils étaient une quarantaine, mais j'ai au moins cité trois signatures masculines et trois signatures féminines pour rappeler l'exigence de parité. Et donc cet appel a été tout à fait visionnaire, mais évidemment, revisiter cet appel, c'est se secouer un peu en prenant conscience du risque de notre défaite. La première phrase du livre, c'est « Que nous est-il arrivé ?». Ce n'est pas un livre pour le passé, c'est un livre pour le présent. Qu'est-ce qui a fait que se sont banalisés, et particulièrement en France, avec un danger extrême, particulièrement en France, pas simplement des formations politiques d'extrême droite, pas forcément uniquement la représentation politique de l'extrême droite, 89 plus 1 député, 90 députés à l'Assemblée nationale française aujourd'hui, mais plus précisément la banalisation, l'accoutumance dans la presse, dans les médias, dans les débats, dans les milieux intellectuels, universitaires, de l'idéologie d'extrême droite, c'est-à-dire de l'idéologie radicalement antidémocratique. Pour la définir tout simplement, c'est l'idéologie de l'inégalité naturelle. Il y aura toujours des personnes, parfois avec talent, avec une posture littéraire, pour défendre que nous naissons inégaux, qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres, des sexes, des genres, des apparences, des croyances, des identités supérieures à d'autres. Si nous sommes ici, dans un espace libre de parole, d'éducation, de transmission, qui symbolise les conquêtes démocratiques, c'est parce qu'a été proclamé l'inverse, l'égalité naturelle. Cette proclamation de 1789 en France, qui a été prolongée en 1948 par la Déclaration universelle, dont le rédacteur était un Français aussi, René Cassin, qui dit que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. C'est un scandale qui bousculera toujours tous les conservatismes, toutes celles et tous ceux qui veulent figer le mouvement des sociétés. Et c'est ce scandale qui nous a permis de conquérir des droits démocratiques. Quand c'est proclamé en août 1789 en France, c'est encore la monarchie absolue. Il n'y a pas d'institution démocratique, pas de droit de vote, il y a l'esclavage. Ne parlons même pas des droits des femmes, évidemment. C'est ce qui nous a permis de conquérir des droits sociaux, de considérer que ce n'était pas légitime qu'il y ait le travail des enfants, d'avoir des congés payés, d'avoir des droits à la retraite. C'est ce qui nous a permis de défendre les droits des colonisés, de ceux que l'on opprimait au nom de nations qui se disaient autorisés à conquérir leur pays et à dominer leur peuple et à prendre leurs richesses. C'est ce qui nous a permis de conquérir, et Dieu sait si ce sont des conquêtes fragiles, les droits des femmes. Pour ma génération, et les droits des femmes sont l'exemple le plus symbolique de la radicalité démocratique, car j'allais dire c'est transcourant, hein, et il n'y a pas d'origine politique ou de milieu social qui soit à l'abri de cette question, mais je rappelle toujours aux audiences, j'ai 70 ans aujourd'hui, que j'avais 13 ans quand les femmes françaises ont été autorisées à avoir un compte chèque, un compte en banque. J'avais 18 ans quand la notion de chef de famille a été supprimé, et c'était évidemment l'homme du ménage qui était le chef de famille. Et j'avais 22 ans quand le droit à l'IVG, le droit à la maîtrise de la procréation par les femmes, a été conquis en France. Et ce sont évidemment des conquêtes immensément fragiles, et aucune civilisation n'en est propriétaire. Je rappelle souvent, volontiers, que les femmes françaises ont eu le droit de vote une vingtaine d'années après les femmes turques, même si les jeunes turcs ont fait d'autres choses pas sympathiques, je pense au sort des Arméniens. Et donc, ces droits, c'est une conquête infinie. C'est ce qui nous permet aussi de défendre les droits des personnes racisées aujourd'hui, des personnes LGBTQI+, de toutes les discriminations, racisme, xénophobie, antisémitisme, islamophobie, négrophobie, homophobie. Bon. Et face à cela, les idées dont il s'agit, ce sont celles qui disent non, ces hiérarchies sont naturelles. Le propos de mon livre, prolongeant le propos de cet appel, c'est de dire que les démocraties sont fragiles. Puisque c'est un régime de liberté, la démocratie est fragile. Et que du coup, nous devons les défendre, les démocraties. Et que nous ne devons pas laisser, au prétexte de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, s'ébattre librement des idéologies meurtrières. Car l'idéologie de l'inégalité naturelle est une idéologie meurtrière. Cela commence par des mots, et c'est tout le propos du livre, et c'était le propos de Maurice Olinder, c'est ce que je retrace en racontant son travail de chercheur, en racontant toute sa démarche scientifique, y compris d'une revue qu'il avait créée, Le Genre Humain. Il disait que son appel était un appel philologique, faire attention aux mots. Cela commence par des mots, et on pense que les mots, bah, c'est simplement la liberté de dire, y compris des horreurs, y compris le pire, y compris l'abject. C'est ce que l'on revendique, hein. Assez de politiquement correct. Laissez-moi dire, laissez-moi déballer, laissez-moi déborder, laissez-moi exprimer tout ce qui me passe par la tête. Eh bien, en laissant s'exprimer cela, on habitue à des mots, et ces mots peuvent, un jour ou l'autre, devenir des actes. C'est déjà le cas dans l'ordinaire des haines dans un pays comme celui où j'habite, la France. Pour terminer cette présentation rapide, il y a deux mots sur lesquels j'ai à nouveau écrit ce soir à propos de ce qui se passe d'abominable à Mayotte, le 101e département français, cette opération dite anti-migrants, et qui est en fait une mise en scène de... par le pouvoir actuel, de la pratique idéologique que souhaite l'extrême droite, c'est-à-dire le tri des humanités. Le tri des humanités au sein des mêmes peuples, de commencer à créer une hiérarchie des humanités. Il y a deux mots très simples qui sont dans le débat public français aujourd'hui, dont on débat à la télévision, y compris à la télévision publique, qui ont leur chaîne, qui ont leur tribune, l'ancien journal de référence de la droite française, Le Figaro, les chaînes de radio, de télévision d'un milliardaire comme M. Bolloré, et plein d'autres. Ces mots ont été lancés en 2010, il y a peu de temps. Et aujourd'hui, ils ont été promus dans le débat politique. Et puis, ils ont trouvé, y compris leur notoriété mondiale, en étant revendiqués par l'écrivain français qui est aujourd'hui le plus traduit. Je viens de citer Renaud Camus, l'inventeur, Éric Zemmour, le publiciste passé en politique, et puis Michel Houellebecq, le romancier. Ces deux mots, c'est grand remplacement. Deux mots au nom desquels déjà des massacres de masse, des meurtres de masse ont été commis en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Ces mots, et qui n'ont pas de frontières, ils peuvent y compris être employés dans le débat belge comme dans le débat québécois ou d'autres, pour parler de pays francophones, voire la Tunisie récemment, l'autocrate président tunisien. L'origine ne protège de rien. Ces mots installent une idéologie monstrueuse. L'idée qu'il y a une partie du peuple qui en occuperait une autre et qu'il serait légitime de la chasser, de chasser des gens du même peuple. Ce qu'ils appellent la remigration. L'opération actuellement à Mayotte, je serais incapable de vous reciter en maoré son nom maoré, mais son nom maoré veut dire reprise. Il a été choisi à Paris. Reprendre, comme reconquérir. reprendre ce qu'on nous aurait volé, notre territoire, notre identité, notre culture. Alors qu'évidemment, les Comoriens et les Comoriennes qui vont être raflés, dont les maisons sont détruites et qui sont potentiellement, pour l'instant, une décision de justice a permis d'interrompre ça, expulsables, c'est le même peuple. Puisque Mayotte, c'est le même peuple, c'est le peuple des Comores. C'est la même langue, c'est la même culture, c'est la même religion, c'est parfois les mêmes mariages, c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes lignées. Et donc on habitue à cette idée que l'on peut créer au nom de l'idée qu'il y en ait qui seraient des vrais Français et d'autres qui ne le seraient pas, l'idée qu'on peut faire le tri. Et qu'on peut faire le tri jusqu'à les expulser, jusqu'à détruire leurs maisons, jusqu'à les parquer dans des camps et jusqu'à les faire partir. Et donc mon alerte est celle-là. On ne peut pas avoir de tolérance pour cela. Si l'on a une tolérance pour ces idées-là, on a une tolérance pour le poison meurtrier des démocraties. Pour quelque chose qui peut être fatal pour les démocraties. Je vais vous en donner deux exemples pour terminer, que je rappelle dans le livre historique pour nous faire vraiment peur. Mais l'histoire sert à ça, il n'y a d'histoire qu'au présent pour nous permettre des lucidités. Comme vous le savez sans doute, comme vous l'avez sans doute appris, le laboratoire intellectuel de l'antisémitisme moderne ne fut pas l'Allemagne, ce fut la France. C'est l'Allemagne qui a produit la monstruosité finale avec le génocide, la Shoah, le génocide des Juifs d'Europe. Le meurtre de masse de gens parce qu'ils étaient nés, nés juifs en l'occurrence, ou nés tziganes. Mais c'est la France qui a inventé ça dans le contexte de la crise d'une république, sous une république, avec un publiciste, il s'appelait Édouard Drumont. Il était, comme M. Zemmour et d'autres, M. Houellebecq et plein d'autres que je cite, il était dans les salons parisiens, il fréquentait même Zola, l'homme qui va s'engager dans l'affaire Dreyfus, il se croisait. Et il publie La France juive, qui est la Bible de l'antisémitisme, avant le faux des protocoles de Sage de Sion. Alors évidemment, si vous aviez dit, Monsieur Drumont quand même, vous vous rendez compte ce que vous écrivez là? Mais vous savez, ça va amener à tuer des gens. Mais non, que, mon cher ami, de quoi parlez-vous? Je ne fais qu'exprimer mon opinion, un point de vue, vous pouvez le contester. D'ailleurs, mon journal s'appelle La Libre Parole. La liberté de dire, sous-titré néanmoins La France aux Français. Donc si vous aviez dit à M. Drumont, qui n'était pas un nazi, qui n'avait pas décidé d'être dans les Einsatzgruppen qui vont faire la Shoah par balles, tuer un à un, Babillard, c'est près de Kiev, 30 000 personnes en 3 jours. Des diplômés de droit dirigeaient ces unités. Des gens comme vous et moi, des gens qui avaient été à l'université, pas des brutes épaisses. Et donc, si vous disiez à ce monsieur, ben, ça va créer ça dans 40 ans, il aurait dit, mais vous êtes fou, vous êtes fou. Et je vais vous donner un deuxième exemple que je raconte dans le livre et qui est trop peu connu en France, alors qu'Hannah Arendt l'avait exhumé dans les origines du totalitarisme. En 1938, il y a les accords de Munich, ce lâche soulagement, où on accepte que le premier acte de l'Allemagne hitlérienne hors de ses frontières. Jusque-là, ce pouvoir était reconnu. Aucune rupture des relations diplomatiques. Ne jamais oublier, on en revient à la fragilité des démocraties, que le fascisme italien comme le nazisme allemand sont arrivés par les élections, par les fautes du camp démocratique, par ces aveuglements, par ces inconséquences. Puis après, ils ont brutalisé leur peuple, puis ils ont plus tard brutalisé le monde. Et donc en 1938... Lâche soulagement, accord de Munich, une minorité de gens comprend que c'est une saloperie, mais les officiels sont bien contents. Dans la foulée, invitation officielle par la République française du ministre des Affaires étrangères du Reich nazi. Il s'appelait Ribbentrop, il va être pendu à Nuremberg. Procès, crime, l'invention du crime contre l'humanité, l'invention juridique du crime contre l'humanité. Et donc, Ribbentrop est reçu en officiel, en décembre 1938, par le ministre des Affaires étrangères français, il s'appelait Georges Bonnet, j'ai oublié, un radical socialiste. Donc, vous pouvez commenter, ça veut dire qu'il est au centre, centre-droit, centre-gauche, bon, voilà. Bon, ce monsieur va voter plus tard les pleins pouvoirs à Pétain, Il va rien faire de crapuleux sous l'occupation. Et puis après, il reprendra tranquillement sa carrière politique, il redeviendra député, élu de la nation, et il va mourir dans son lit tranquillement. Georges Bonnet fait d'abord un repas officiel pour M. Ribbentrop. Mais les Allemands ont une exigence quand même. Il y a deux ministres juifs dans le gouvernement. Et ça ne plaît pas, ça. Georges Mandel et Jean Zay. Et donc ils demandent que ces deux ministres ne soient pas présents. La République accepte. Elle accepte leurs conditions. Donc on s'habitue, on évacue, on s'habitue aux préjugés, on l'accepte. On l'accepte, oui, comme ça. Et puis a lieu l'entretien officiel. Et là, Bonnet dit à... Je vous parle de ça en pensant à ce que je viens d'écrire sur Mayotte et ce qui se passe là. Et ce théâtre de la cruauté qu'on fait à 8000 km de chez nous, là. Et le Bonnet dit à Ribbentrop, je suis d'accord avec vous, il y en a trop. Alors il parle de ces migrations halogènes. En l'occurrence, c'était essentiellement l'immigration juive d'Europe centrale, pauvre, des shtetels, comme on disait, les communautés de Pologne qui arrivaient, qui allaient vers le pays des droits de l'homme, qui disaient liberté, égalité, carte d'identité, dans l'espoir de l'avoir, hein, qui étaient évidemment sans papier, qui étaient dans les solidarités populaires, etc. Oui, vous êtes d'accord, il y en a trop, il y en a trop. Mais vous savez, dit Bonnet, on a une idée que je voudrais vous soumettre. Vous savez, nous sommes une grande puissance coloniale, il revient, c'est la même région dont je vous parle. Et on a une grande île, là-bas, ça s'appelle Madagascar. Et c'est très peu peuplé. Alors peut-être qu'on pourrait les rassembler et les expulser là-bas. Eh bien, savez-vous quoi? Un an et demi après, quand l'Allemagne nazie a conquis la France et l'Europe, la première solution étudiée par l'Office du Reich, qui après va faire la solution finale, après Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, la Shoah par balle, la Shoah industrielle, les camps de concentration et les chambres à gaz. Bien, la première solution étudiée, c'est cette expulsion de masse. Et vous savez comment ça s'appelait ? Le plan Madagascar. Ils vont étudier très sérieusement le plan Madagascar. Combien de bateaux ? Combien ça coûte ? Est-ce que c'est faisable et tout ? Puis ils vont finir par dire que c'est compliqué, que c'est loin. Et puis par ailleurs, après, ils vont passer à des méthodes plus expéditives, en sachant très bien que c'était un crime monstrueux, puisqu'ils décident de le cacher. C'est tout le sens de la conférence de Wannsee et de tout ce qu'ils ont organisé. Alors je rappelle ça pour dire, oui, M. Bonnet n'était pas un nazi. Monsieur Drummond était un antisémite, mais il ne pensait pas à la monstruosité, la montagne de millions de meurtres que cela créerait. Celui qui accompagnait monsieur Drummond dans ses obsessions à l'époque est un écrivain qui, y compris, est fêté encore en France parce que c'est le centenaire de sa mort. Il s'appelait Maurice Barrès. C'est l'écrivain du nationalisme intégral, « La terre et les morts ». Il avait eu une phrase, que Dreyfus est coupable, je le déduis de sa race. Et néanmoins, on considère que c'est un grand écrivain. C'est comme dans le débat sur le féminisme, hein. Faut dissocier l'acteur de l'homme, faut dissocier l'artiste de l'homme. Bon, hein, faut faire le partage, etc. Et donc j'en viens à ce que ça dit, tout ça. Et c'est une alerte grave que je fais. J'aimerais vous faire des blagues, j'essaye un petit peu. Mais c'est une alerte grave parce que je pense vraiment, et je suis sidéré par l'état du débat public dans le pays où je vis, j'ai du mal à dire dans ces cas-là mon pays. Parce que j'en ai un peu honte. Et donc voilà, j'ai cheminé avec ce petit fantôme de Maurice Olinder, pour nous dire ça, que les démocraties sont fragiles, que quand on s'accoutume, il n'y a que le premier pas qui coûte. On peut dévaler très très loin, très très bas. En s'habituant au bouc émissaire, on installe toujours un bouc émissaire principal. J'ai mentionné évidemment l'antisémitisme. Aujourd'hui, ce sont les musulmans de culture, de croyance, d'origine, d'histoire, qui sont le premier bouc émissaire. Mais comme toujours, c'est des poupées gigognes. Il y a tout le monde derrière. et l'antisémitisme revient, et l'homophobie va avec, et la détestation du féminisme va avec, et ainsi de suite. Et quand je dis que c'est fragile, il faut avoir conscience de ce qu'on met en jeu dans tout ça. C'est quoi cet article premier dont je parlais tout à l'heure ? C'est aussi la proclamation qu'il y a un genre humain. Le titre de la revue de Maurice Hollander, qu'il y a un genre humain. Cette proclamation est une proclamation qui se dresse, et je parle ici dans un pays qui abrite notamment les institutions de l'Union européenne, et je salue un parlementaire européen qui est dans la salle. Il y en a peut-être d'autres, mais celui-là, je le connais. Voilà. C'est la proclamation, et c'était l'idée de René Cassin. Il disait, il faut proclamer cette déclaration universelle des droits humains, parce que on ne peut pas faire confiance aux États et aux nations. La leçon du XXe siècle, c'est que les États et les nations peuvent être des États molochs qui sombrent dans des folies, et qui sombrent dans des folies avec des individus très rationnels, ce qui était tout le propos de Maurice Hollander. Qu'est-ce qui fait que des savants, que des diplômés, que des cultivés acceptent ça ? Comme on s'interrogera au Rwanda, qu'est-ce qui fait que des voisins ont pu accepter d'aller à coups de machette, en faisant une pause au déjeuner, tuer en quelques mois leurs voisins, leurs proches, une partie de leur famille, alors qu'ils fréquentaient la même église, alors qu'ils avaient le même jardin. Qu'est-ce qui fait ? Ça commence par des mots. Au Rwanda, vous le savez tous, ça a commencé, je le rappelle dans le livre, par une radio qui a été la radio de masse du génocide, qui se revendiquait de la liberté d'expression quand elle dépose ses statuts, il y a 30 ans, en 1993, un an avant le génocide, Radio Mille Collines. C'est comme nos médias de masse qui propagent ses opinions aujourd'hui. Une radio très bien faite, émettant sur tout le pays du Rwanda, avec de la très bonne musique, notamment congolaise. Et puis des publicistes, à la Zemmour et autres, qui diffusaient ce poison. Et c'est ce poison qui fait que des gens normaux se sont retrouvés, quelques mois après, à tuer. Et à penser que leur voisin était un monstre, était un cafard, comme ils disaient, etc. Maurice Hollander a fait un jour ce qui était un scoop que j'ai publié dans Le Monde à l'époque où je le dirigeais. Il a été voir un savant des études littéraires, Hans-Robert Jauss, qui a étudié la réception des études littéraires, et il l'a traqué un an avant sa mort au bord du lac de Constance. Pourquoi ? Ce monsieur, très brillant et très reconnu et devenu converti aux idées démocratiques, avait été engagé volontaire dans la Waffen-SS. Il avait combattu jusqu'au dernier jour à Berlin. En ne croyant pas, jusqu'au dernier jour, pas la défaite, hein, animé par tout ça, et avec les nazis français de la division Charlemagne. Donc il a été le voir pour essayer d'obtenir ce qu'on n'a jamais obtenu d'un intellectuel nazi, ni de Heidegger, ni de Carl Schmitt, le juriste, ni de Heidegger, le philosophe. Pourquoi ? Jamais eu de mots, de compte-rendu, d'excuses, de critiques, de retours critiques, comme il y a eu, en revanche, dans le monde communiste, sur les crimes du communisme. Et donc le gars dit d'abord, erreur de jeunesse, puis après il dit, c'est l'indifférence à l'humanité. Il lui dit plus poliment, Maurice, mais ça ne me convient pas. Et il le traque. Et finalement, il obtient, et c'est dans le livre, à partir d'une phrase de Walter Benjamin, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. La catastrophe, c'est pas ce qui est à venir, c'est ce à quoi on s'habitue. Et c'est ce que Jauss dit, c'est comment on s'est habitué, comment on s'habitue. Et du coup, ce qui semblait impensable, ce qui semblait monstrueux, devient possible et acceptable. C'est comment on s'habitue. Et donc, mon alerte, elle est celle-là, c'est qu'on s'habitue un peu trop et qu'il faudrait se secouer. Au-delà du combat contre les extrêmes droites partisanes, hein, je parle vraiment, et ça concerne notamment les milieux universitaires, les milieux du savoir, les milieux de l'enseignement, contre la banalisation de ces idéologies de l'inégalité naturelle. Pardon, j'ai été trop long pour ce propos introductif.
J'aimerais rebondir sur deux choses que vous avez dites. Premièrement, l'idée de la banalisation de l'extrême droite et de ses idées. Premièrement, on a vu dans l'actualité un certain militant des milieux environnementaux qui a été sur un plateau...
Hugo Clément, vous pouvez le nommer.
Vous payerez le procès, pas moi. Donc qui a été sur Face à Valeurs Actuelles, débattre avec le président du Rassemblement National sur l'idée que, en fait, c'est pas très grave de débattre avec l'extrême droite si après, on fait des choses pour l'environnement. Et j'aimerais d'abord avoir votre avis sur cette question. Et j'enchaîne parce que je sens que si je vous lance, je vous lance. j'aimerais aussi vous demander, mais en fait, on voit l'extrême droite qui se revendique soit d'extrême droite, soit qui ne se revendique pas d'extrême droite, mais on la voit quand même. Comment on fait pour lutter contre les idées d'extrême droite qui sont de plus en plus présentes chez les partis traditionnels qui se veulent démocratiques ?
Mais c'est bien de cela dont je parle, l'accoutumance. Il y a aujourd'hui dans le paysage français des gens qui se pensent de gauche, mais qui professent des idées d'extrême droite. D'ailleurs, Éric Zemmour venait de la gauche nationale républicaine française. Les gens du printemps républicain qui sont dans l'obsession islamophobe et dont nos dernières révélations sur le fonds Marianne payé par le ministère de l'Intérieur montrent l'influence sur des réseaux totalement sidérants. Quand même, nos dernières révélations d'hier, c'est que ces jeunes qui se réclamaient de la même mouvance, de l'obsession anti-musulmane du printemps républicain, ont été tagués une mosquée après l'assassinat de Samuel Paty. Une autre personne de ce même réseau a harcelé en ligne, tout ça ce sont des délits, Nicolas Hénin, ancien otage de l'État islamique, qui comptait... s'en prenait au fait que c'est pas parce qu'il y a eu un totalitarisme qui se réclamait de l'islam que ça donnait droit à lancer des appels à tuer des musulmans, à exterminer des musulmans, hein, ce qu'il disait par rapport à l'extrême droite. Donc cela libère quelque chose où se font des bascules comme celle-là. Pour moi, c'est une vieille histoire, y compris dans le débat intellectuel. J'ai accepté, c'est la seule confrontation que j'ai acceptée à cause du fait que c'était France Culture, accepter une confrontation, une invitation, confrontation, mais ça n'a pas du tout été un dialogue, évidemment, avec quelqu'un qui est concerné par le propos de ce livre, qui est Alain Finkielkraut, et qui a une émission très, très écoutée sur la radio publique française, et qui est, pour moi, profondément converti, sans le savoir, au racisme. Il ne sait plus reconnaître un antisémite, lui, qui a écrit un superbe livre qui s'appelait « Le Juif imaginaire ». Le premier antisémite qui ne sait pas reconnaître, c'est Renaud Camus, qui, avant de passer à l'obsession des musulmans, a d'abord trouvé qu'il y avait trop de juifs sur France Culture. Bon, tout ça est une vieille histoire que je remémore dans le livre parce que c'est une histoire dont j'ai été l'acteur. J'ai raconté ça il y a 30 ans, il y a 20 ans. Hein, et je me suis déjà retrouvé plusieurs fois face à des personnes comme celle-là. Et j'ai assisté à ce basculement. Alors d'où vient ce basculement ? Et là, c'est aussi le cœur du propos qui rejoint l'idée du genre humain. Il passe toujours par le repli sur la nation. L'idée qu'on s'en sortira en étant entre nous, que l'Europe c'est trop compliqué et que ça nous emmerde et que ça nous pose des problèmes. Et puis que le monde, vraiment, c'est encore plus compliqué. Et du coup, on va être indifférent au monde. J'ai fait l'année dernière un livre de la Yougoslavie à l'Ukraine, il s'appelait « L'épreuve et la contre-épreuve », en rappelant combien nous payons aussi, et tous ces gens-là sont d'ailleurs dans ce même registre-là, d'indifférence au monde, d'indifférence au sort du peuple syrien. Hein, si on avait un peu plus écouté et accueilli les Syriens, on aurait mieux compris ce qu'était le pouvoir de Poutine avant d'en prendre conscience sur l'invasion de l'Ukraine. Mais mieux encore, les mêmes se disent « bon, l'Ukraine, quand même, il faut condamner ». Mais comme je le dis toujours dans mes interventions sur l'Ukraine, qu'est-ce qui est en jeu dans le cadre de l'Ukraine ? Le droit international. Un pays n'a pas le droit d'agresser un autre pays qui ne lui a pas déclaré la guerre, qui n'a jamais occupé une partie de son territoire et qui est en une dynamique propre, une dynamique démocratique. C'est ce qu'on appelle le droit international. On ne peut pas annexer des territoires. Eh bien, si on tient les deux bouts, on dit ça sur l'Ukraine, mais on doit le dire sur la Palestine. On ne peut pas défendre le droit international sur l'Ukraine et l'oublier sur la Palestine. Et de fait, la France, je parle de Mayotte, vous savez que la France a rapté Mayotte au moment de l'indépendance de l'archipel des Comores. Résolution des Nations Unies, résolution de l'Union africaine, c'est illégal en droit international. Bon. Et donc vous voyez bien qu'on est au cœur de cette idée, est-ce qu'on a le souci du monde ? Agis en ton lieu et pense aux autres et agis en ton lieu, disait Édouard Glissant. Donc le lien avec le monde. Et donc la crise de nos sociétés qui fait que ces idéologies progressent, et elles progressent sous toutes sortes d'atours qui ne sont pas simplement les atours partisans de l'extrême droite. Partout dans le monde aujourd'hui, il y a des pouvoirs qui s'appuient sur cette idée du repli national. Je termine en citant un livre qui est un peu le manifeste de ça, d'un intellectuel israélien qui s'appelle Yoam Hazony, qui théorise les vertus du nationalisme. C'est le retour au XVIIIe siècle. C'est l'idée qu'il n'y a qu'une légitimité, celle des nations. Il n'y a pas d'ordre supérieur. Il n'y a pas de droit humain supérieur. Donc, et si on dit... Il n'y a qu'une légitimité, celle de la nation. La nation est évidemment construite sur une identité qui est définie comme l'identité naturelle, légitime, à laquelle les minorités, les différences, les dissidences doivent se plier. Et donc, il faut dérouler toute la pelote. Il faut d'abord camper fermement le camp de l'égalité. C'est une frontière qu'on ne doit pas franchir. Ce qui me permet de répondre à la question du débat. La formule est en exergue. Elle est d'une très belle personne, Jean-Pierre Vernant, qui était un grand philosophe, historien, helléniste, professeur au Collège de France, et qui fut un très grand résistant, le chef de la résistance à Toulouse, compagnon de la libération. Et au moment de l'appel à la vigilance qu'il a signé, il a eu une formule qui résume tout. « Je suis accueillant, je suis hospitalier, je suis dans la tradition des Grecs, et je suis prêt à goûter tous les mets, même les plus exotiques, pour mon palais. » Mais les Grecs considéraient qu'un banquet, ça avait des règles. On devait se tenir quand même. Un peu de tenue. Comme la démocratie, ça doit se tenir. Ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. Un peu de tenue. Et du coup, ils disaient, « Ah ben non, je ne suis pas prêt à accepter certaines personnes à ce banquet-là. Pourquoi ?» Parce qu'on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Je ne vais pas aller discuter de savoir si les femmes sont inférieures aux hommes avec Éric Zemmour, qui pense vraiment, et qui le dit et qui l'écrit, que les hommes ont un cerveau beaucoup plus puissant que les femmes et qu'ils ont le droit d'être des prédateurs sur les femmes. Je ne vais pas aller discuter de ceux... parce que cette extrême droite relaie les mêmes propagandes que Poutine, que l'extrême droite israélienne ou que les mollahs iraniens sur les homosexuels, sur le mariage pour tous, comme une perversion, comme une décadence, comme un Occident satanique. Non, l'infinie conquête des droits, de l'égalité, nous amènera en permanence à conquérir des droits. Et donc, premièrement, par principe, on ne va pas discuter de cette valeur fondatrice. Parce que dans ce cas-là, on cède, on dit ça, je ne discute pas de ça. Et on en revient au propos d'aller discuter écologie, environnement, tranquillement, en disant, tiens, l'extrême droite peut devenir écologique. Et là, il y a deux dimensions. Premièrement, si on parle des droits, la prise de conscience écologique, c'est de penser qu'il y a des droits du vivant, que nous... cette espèce très particulière qui a un gros cerveau, et c'est pour ça qu'on est des prématurés et qu'on ne gambade pas tout de suite comme des chevaux. Donc, par notre intelligence, par notre puissance, on est devenu très savant, homo sapiens, mais très fou, homo demens. Donc, on détruit beaucoup, on domine beaucoup, on invente beaucoup et on détruit beaucoup, on crée beaucoup et on gâche beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on prend conscience? C'est quoi le défi d'une politique écologique, d'une écologie politique? C'est du lien avec le vivant, c'est de la relation, c'est de la fragilité, c'est le tremblement du monde, comme disait Édouard Glissant de façon poétique. Donc le fait que dans cette lien d'égalité, il y a aussi une égalité à construire. Nous ne sommes pas une espèce qui a le droit de dominer l'ensemble du vivant de façon inconséquente. Donc la question de l'égalité des droits, elle fait corps avec la question écologique. Et donc si on est de conviction écologique, on est du côté de l'égalité des droits. On ne peut pas être du côté de « il y a des privilégiés par rapport à d'autres » par la naissance, par l'arbitraire de la naissance, par l'arbitraire de la couleur de peau, par l'arbitraire de l'origine, par l'arbitraire de la croyance, et ainsi de suite. Et là, du coup, j'en viens à autre chose qui est terrible dans l'acceptation de ce type de discussion. Naomi Klein, dans un de ses derniers livres, qui est une figure de la prise de conscience universelle des défis de l'écologie, avait signalé le danger d'un éco-fascisme. Ben, la prise de conscience par ceux qui sont du côté du manche, qui sont privilégiés, qui sont richissimes, eh bien, la prise de conscience que, oui, il y a un danger pour le tout vivant du monde. Oui, il y a un risque. Oui, on y est déjà. Hein. Ce n'est pas une affaire de quelques mois, de 2 ans, de 3 ans. On est déjà dans le dérèglement et la catastrophe climatique. Et donc, ben, on va décider qui s'en sort. On va décider le tri, qui est jeté du bateau et qui est dans le bateau. On va décider qui a le droit de s'enrichir pour acheter des territoires qui ne seront jamais atteints par les eaux de la mer. On va décider comment on fait le tri dans une écologie des puissants, une écologie des riches. Et dans le refus de prendre conscience que ces désastres, bien sûr qu'ils nous concernent, ce qui est arrivé ici en Belgique avec les inondations à Liège, à Verviers, tout ça montre, comme ça arrive dans d'autres pays, nous l'a rappelé, aucun territoire n'est à l'abri de ça. Mais quels sont les territoires les plus concernés? Évidemment, comme l'a dit de manière provocatrice Michael Correa dans Mediapart, la catastrophe climatique est raciste. Elle concerne d'abord des personnes qui sont celles qui sont victimes chez nous du préjugé, de la discrimination, dans leur pays, dans leur territoire. Et puis par ailleurs, au cœur de la catastrophe climatique, il y a évidemment la question du droit de se déplacer. La naissance, c'est un hasard. Il y a un hasard malheureux de la naissance, parfois, indépendamment de l'envie dont on profite quand on fait Erasmus, quand on est du bon côté du manche, quand on peut voyager, quand on est touriste, on a envie de découvrir. C'est pas la misère du monde, contrairement à la phrase prêtée à Michel Rocard qui frappe à notre porte. C'est la jeunesse du monde, quand on voit tous ces jeunes qui ont traversé toutes sortes de choses terribles. Et qui viennent. Ils veulent aussi échapper au hasard malheureux de la naissance, mais aussi découvrir d'autres mondes, d'autres paysages, d'autres horizons, d'autres aventures, d'autres rêves, comme nous tous. C'est un droit, le droit de se déplacer, de bouger. Et donc, voilà, donc ce qu'a fait Hugo Clément, c'est de permettre à l'extrême droite politique de se verdir. Hein, et j'ai été, vous savez... Aujourd'hui, le rapport de force est inversé. Vous savez qui m'a invité dès que ce livre est sorti ? J'étais invité à cette soirée de Valeurs Actuelles. Très gentiment. Très poliment. Pour débattre devant, m'ont-ils dit, devant un public de réac, mais qui seront polis. Voilà. Voilà. Oui, bon, j'ai dit que j'avais autre chose à faire. Mais voilà, mais... Et comment dire, je ne m'en prends pas aux personnes là. Ce que je veux dire, c'est il faut qu'on tienne la ligne. Après, chacun, il y aura toujours, ce que je dis au début du livre, il y aura toujours le racisme du café, du commerce. Il y aura toujours des libelles un peu esthétiques, professant de manière provocante ces opinions-là et tout. La question, c'est la responsabilité du débat public. La responsabilité qui est la nôtre du débat public, de ne pas laisser s'ébattre tout cela, de ne pas laisser dire tout cela. Et vous voyez, et de ce point de vue, je le redis, l'origine protège de rien. Hein, il faut bien avoir conscience de ça, c'est que c'est une vigilance. Il n'y a pas de pays qui soit propriétaire de l'universel, pas de culture qui soit propriétaire des droits. Et regardez ce vice-président, premier vice-président du territoire de Mayotte, ce 101e département français, qui hier a appelé à tuer sur le service public. C'est un élu centriste, plutôt proche de la droite et soutien de la majorité présidentielle française. Puis il a dit, oui, bon, quand même, non, c'est pas possible, il faut les tuer. Il faut les tuer. Et il dit, il n'a pas dit je me modère et je me retiens, ou presque ça. En disant, ces jeunes, les jeunes, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de misère, c'est le département le plus pauvre de France, enfin de France, du territoire supposé de la République française, pas géographique. Et donc, il y a beaucoup de violence. Et donc, évidemment, ils se révoltent, puisqu'on veut les expulser, ils ont des machettes et tout, c'est dangereux, il y a de la délinquance, il y a la pauvreté, mais qui traverse tout le monde. Et du coup, il faut les tuer. Il faut les tuer. Et il dit, d'ailleurs, il faut en tuer un avant qu'il ne tue un policier. Il faut les tuer. Mais rappelez-vous, en pleine campagne présidentielle française, la chaîne a eu une amende pour ça. Avant la campagne, avant qu'il soit candidat officiel, Éric Zemmour avait une chaîne de télévision à lui, CNews, de ce milliardaire breton. Je suis breton, hein, d'outre-mer. L'origine protège de rien. Bolloré. Voilà. De ce milliardaire breton. Et il avait cette émission présidée par une journaliste basculée du côté obscur de la force, qui est de mon pays de cœur, de jeunesse, avant l'Algérie, qui est les Antilles. Salut à Harry Belafonte, hein, qui est mort aujourd'hui. Si vous ne le connaissez pas, allez écouter Harry Belafonte. Oh, 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 bon, c'est... Oh, je ne vais pas chanter mieux que lui, mais c'est l'homme de la... Voilà, enfin, je dis ça juste parce que ça m'a ému, j'écoutais ça dans le train. Bon, je reviens sur... Et il y a cette scène terrible où, à propos d'un fait divers, évidemment, hein, ils mettent en exergue tout ça, et Zemmour lui dit, mais il faut tous les chasser. Donc il parle, voilà, de la partie de notre peuple qui est venue, de notre diversité, qui n'a pas... la même couleur de peau, la même culture, la même religion. Il faut tous. Ils sont tous des voyous, sont tous des voleurs, sont tous des délinquants. Et vous avez cette Christine Kelly qui dit « Pas tous, Eric. » Si, Christine, tous. Voyez bien l'essentialisation, l'habitude à dire ces mots-là. Alors qu'au café du commerce, il y a quelqu'un qui dit cette bêtise-là après trois verres de trop et qu'on aille lui taper sur l'épaule, arrête de dire tes conneries, c'est une chose. Mais qu'on le dise dans l'espace public comme ça, qu'on l'admette, que la personne ait des tribunes, qu'elle soit réinvitée sur le service public, récemment encore, pour parler du grand remplacement, et habituée à ces idées-là. Et donc, voilà.
On le sait, enfin, on le voit en tout cas, l'extrême droite, elle s'épanouit et elle fleurit quand on est en période de crise politique, en période de crise économique, où on commence à parfois chercher vers qui retourner sa colère. Et vous dites une phrase dans votre livre qui est, je trouve, très bien trouvée, « Il n'est pas de liberté individuelle sans droit collectif ». Donc je voulais vous poser la question de quelle est la nécessité de dire, en fait, c'est dans cette période où l'extrême droite monte qu'on a besoin de reconquérir des droits, comme en France, le droit à la retraite, le droit à des droits à la sécurité sociale, etc.
Mais tout ce paysage, c'est de remettre en cause ces droits. Vous savez, quand on dit les démocraties, c'est fragile, il faut bien se dire quand même qu'il a fallu la catastrophe européenne, deux guerres mondiales, 30 ans de guerre civile européenne, des montagnes de crimes, et qui était un retour à l'envoyeur de l'autorisation de commettre des crimes dans la colonisation. Le Troisième Reich, c'est un empire colonial, hein, et avec la soumission de populations tenues inférieures. jusqu'à les faire disparaître pour certaines. Il a fallu la catastrophe européenne pour qu'on proclame qu'il y a des genres humains, qu'il y a un genre humain. Il a fallu la catastrophe européenne pour qu'on proclame qu'il y a un crime contre l'humanité et qu'il est imprescriptible. Ça veut donc dire que nous tous, on doit se souvenir de ça. C'est pas de la repentance, comme ils essayent de nous dire. C'est pas de dire, allez, nous bassinez pas avec Hitler, comme je l'explique dans le livre. En fait, leur réduction à Hitlerum, comme ils disent. Nous racontez pas cette vieille histoire, la repentance. Hitler est mort, le nazisme est mort. En fait, il nous dit ça pour pouvoir continuer à parler, à penser comme Hitler, en faisant comme s'il n'avait pas existé. Je cite une phrase terrible dans le livre à un moment, de quelqu'un qui dit « Notre projet politique rejette l'individualisme libéral, la notion d'individu du libéralisme, et la notion d'humanité du marxisme. Notre projet politique repose sur la notion de peuple, un peuple défini par son sang et par sa terre. La légitimité biologique, de lignée, et sa terre, l'enracinement. » Et cette personne dit, ce sont des mots simples. Ce sont des mots simples. Mais leurs conséquences, j'oublie à chaque fois l'adjectif qu'il emploie, c'est leurs conséquences, je crois que je peux le retrouver là. Leurs conséquences, si j'y arrive. Attendez, je crois que je l'ai noté là. Noté quelque part. Non, c'est pas là. Je vais essayer de les retrouver.
J'en profite. Bah, ce sont en attendant.
Des mots simples, mais leurs conséquences sont genre incalculables, genre voilà, sont démentielles, quoi. C'est-à-dire, ce sont des mots simples, mais leurs conséquences sont conséquences de cette proclamation. Cette petite phrase qui renvoie à toutes sortes de logiques identitaires d'aujourd'hui, encore présentes, rejet de la notion d'individu, rejet de la notion d'humanité, le groupe, la masse, l'identité qui s'impose à toi, qui s'impose à ta liberté et qui rejette l'idée qu'il y ait des droits fondamentaux. Eh bien, cette phrase, elle est de Hitler dans Mein Kampf. Quand il l'écrit dans les années 20, il ne sait pas que sa phrase qui prédit les conséquences effroyables ou démentielles, ou je ne sais pas comment il l'écrit, etc., va avoir lieu. C'est ça qu'il dit. Et donc, on a eu cette prise de conscience. En France, ça se traduit par le Conseil national de la résistance. Dans tous nos pays, ça se traduit par la notion d'État social, d'État démocratique et sociaux, avec des tensions, parce que ça bouscule des privilèges, ça bouscule des situations acquises. Mais il y a cette idée que, voilà, nos pays, nos démocraties, la République, dans le cas de la France, doivent avoir des adjectifs. Par exemple, la République française, elle n'est démocratique et sociale que depuis 1945. Avant, elle n'avait pas d'adjectif. Elle était figée, immobile, donc elle pouvait être raciste, elle pouvait être antisémite, elle pouvait être... Voilà. Non, elle a des adjectifs, démocratique, social. Il y a des droits, en effet, à conquérir. Il y a le droit d'avoir des droits, de défendre des droits, de conquérir des droits, et de respecter la fragilité d'une démocratie. Vous parlez des retraites. Au-delà de l'injustice de cette réforme qui est inutile, le scandale, c'est le non-respect de la fragilité de la démocratie, la violation de la fragilité de la démocratie par le pouvoir exécutif, par Emmanuel Macron, qui exactement montre qu'il va jusqu'au bout de la potentialité autoritaire de la Ve République. L'extrême droite arrive au pouvoir demain, elle n'a rien à changer. Emmanuel Macron lui a montré jusqu'où on peut aller. Il manque plus que l'article 16, c'est-à-dire les pouvoirs spéciaux, qui annulent tous les autres pouvoirs, le pouvoir législatif, etc. Mais il s'est déjà essuyé sur le pouvoir législatif. Il a déjà ignoré l'indépendance de la justice. Il a déjà méprisé l'indépendance de la presse. Et donc, nous sommes dans ce moment, et ce n'est pas propre seulement à la France, où cet intermède d'un gros demi-siècle, 70 ans, mais la tendance a commencé il y a déjà une vingtaine, trentaine d'années, de remettre en cause cela, de revenir à ce que beaucoup d'intellectuels ont documenté, c'est-à-dire à une vision d'un libéralisme économique autoritaire. La démocratie, c'est un embarras. Ça nous empêche de nous enrichir. Ça nous empêche de dominer, ça nous empêche de jouir de ce qu'on veut, de notre domination. La pédagogie, par exemple, dans le discours d'Emmanuel Macron, des premiers de cordée, la pédagogie, dans une gare, on croise des gens, etc., et des gens qui sont rien. La pédagogie qui dit « moi, pour vous trouver un boulot, je traverse la rue ». Cette pédagogie de virulence, c'est ce qu'on appelle intellectuellement le darwinisme social. Les écologistes nous le rappelleront, c'est une trahison de la pensée de Darwin, du grand naturaliste. Darwin, ce qu'il a expliqué, et une des personnes qui l'a défendu, qui l'a montré aussi, a fini sa vie ici même, je parle d'Élisée Reclus, le grand géographe libertaire, cette idée que, en fait, la loi de la nature, non, c'est pas uniquement la sélection. C'est pas la plante la plus forte écrase les autres, ou l'espèce la plus forte écrase les autres. C'est l'entraide. Ce qu'un autre libertaire, Kropotkin, qui était naturaliste lui-même, qui était d'origine russe, va écrire dans un livre en 1905, l'entraide. Les plantes ont besoin des plantes. Les biologistes, les naturalistes, tout le monde le sait aujourd'hui. Ils voient comment une plante peut s'appuyer sur une autre plante. Il n'y a pas... Voilà, elle a besoin de l'humus, elle a besoin... Donc, il n'y a pas de loi univoque de la sélection. Le darwinisme social est une idéologie humaine qui s'appuie sur cette naturalisation comme une loi de nature pour dire « il y a les plus forts ont raison, les plus habiles ont raison ». Les plus diplômés ont raison, les plus bien-nés ont raison, et ainsi de suite. C'est une idéologie, le darwinisme social, cette idéologie de conquête, cette idéologie de compétition, cette idéologie de lutte, ravivée par la révolution économique, industrielle que nous vivons avec le numérique, qui ne fait pas barrière à l'imaginaire d'extrême droite. Elle ne propose pas un imaginaire supérieur. D'où ce qui est ma réponse à votre question. Comment on combat l'extrême droite ? En ayant un imaginaire supérieur, en opposant un imaginaire supérieur. Et pour moi, cet imaginaire supérieur, c'est l'imaginaire de l'égalité des droits, ce qui veut dire l'imaginaire d'un monde commun, d'un genre humain. Et c'est en défendant cet imaginaire-là qu'on construira un rapport de force dans la société qui permet de faire refluer ce qui, naturellement, naît dans des périodes de transition, dans des périodes de crise comme celles que nous vivons. Mais il n'y a aucune fatalité à ça. Comme vous avez dit tout à l'heure, ça crée et voilà, les gens se tournent vers ça. Non, ils se tournent vers ça parce que les camps politiques de la droite démocratique ou de la gauche démocratique et sociale qui devraient tenir la digue, qui devraient tenir la barrière, ne la tiennent pas. En France, ça a commencé il y a 40 ans par un Premier ministre, il est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, il était socialiste, qui a dit un jour, face à l'extrême droite qui renaissait électoralement, le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, pose de bonnes questions, mais il apporte de mauvaises réponses. Donc il commençait, il se mettait sur son terrain. Et ça fait 40 ans en France, j'ai calculé, on a fait à peu près, en 40 ans, 30 lois sur l'immigration. Et une nouvelle est annoncée, là. Une nouvelle est annoncée. Ça a résolu les problèmes du chômage. Ça a résolu le problème de l'habitat. Ça a résolu les questions du vivre ensemble. Non, évidemment, ça a permis de faire diversion. Donc j'en reviens à ce que je disais sur le fascisme italien ou le nazisme allemand. Tout ça arrive politiquement, où la catastrophe peut devenir définitive si le camp qui devrait faire barrière ne fait pas barrière. Le drame de la gauche française, c'est la catastrophe du quinquennat Hollande, où la gauche française a dévalé tout l'escalier inverse, jusqu'à la déchéance de nationalité, jusqu'à Manuel Valls. Il était là aussi, à Valeurs Actuelles, pour dire « oui, oui, vous avez raison, nous avons une crise civilisationnelle », a-t-il dit. Une crise civilisationnelle, ce sont les mots de Poutine. Nous sommes dans une crise civilisationnelle, c'est un enjeu vital de civilisation, dit Poutine. Et c'est une guerre de civilisation que nous devons mener contre un Occident décadent, qui est l'Occident de l'égalité des droits, puisque lui, il est d'extrême droite. Il est d'extrême droite, lui aussi. Et d'ailleurs, le seul parti français qui a bénéficié directement de son argent, qui a été plusieurs fois reçu par Poutine, qui a des liens avec les idéologues du régime poutinien, est l'extrême droite politique française. Et donc ma réponse, c'est celle-là. C'est qu'il n'y a, c'est à ne pas tenir la digue que l'extrême droite monte. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France et qui continue à se passer. Et c'est pour ça que je suis, contrairement à ce que pour vous donner le sentiment que peut vous donner la gravité de l'alarme, je suis optimiste que ce pessimisme vital qui est évoqué à la fin du livre et dont parlait Maurice Olinder. Comment dire ? Dans d'autres livres, j'ai rappelé et popularisé une phrase qui, depuis, a fait son chemin de cet intellectuel antifasciste, socialiste puis communiste italien, Antonio Gramsci, qui est mort dans les geôles du fascisme italien, et qui avait dit dans les années 30, la crise, ces moments de transition, c'est quand un vieux monde est en train de mourir, mais il ne veut pas mourir. Il est condamné. Ce monde de l'accumulation, de la spéculation, de la richesse à tout prix, à courte vue, ce monde des fortunes incommensurables et tout, est un monde fini. C'est un monde qui n'a pas d'avenir. Il ne s'occupe pas du bien commun, y compris de... Il va disparaître, lui aussi. Mais eux, ils veulent... Tant qu'ils ne sont pas morts, ils veulent en profiter. Mais ils sont condamnés. Mais ils ne veulent pas disparaître. Et donc, du coup, ils sont de plus en plus méchants. Et de l'autre côté, dit Gramsci, il y a un nouveau monde, vous en êtes, qui est là et qui s'exprime. Il n'arrête pas de s'exprimer. Mais c'est des jeunes pousses. Il n'arrive pas à s'imposer, il ne trouve pas sa traduction politique, il ne trouve pas son expression étatique. Il n'y arrive pas encore, tout à fait, mais il est là. Il nourrit le débat. Alors, ça, c'est la phrase classique qu'on citait de Gramsci. La crise, c'est un vieux monde qui meurt et un nouveau monde qui tarde à naître. L'important, c'est le membre de phrase suivant. Et dans cet entre-deux surgissent des phénomènes morbides les plus variés. Dans cet intervalle, dans cette attente de la fin du vieux monde et de l'émergence du nouveau monde, surgissent, qu'une autre traduction plus poétique a exprimé, surgissent des monstres, des monstruosités politiques. Nous les avons sous les yeux. Nous les avons entre ce dont nous débattons, y compris autour de ce que nous représente le pouvoir russe, de ce président tunisien qui trahit la promesse des printemps arabes avec le pays qui en fut à l'origine, et qui lui-même, contre les populations d'Afrique subsaharienne, parle de grand remplacement, et donc assume un racisme contre d'autres Africains. Et donc, nous sommes dans cette période monstrueuse où je prends un autre exemple, où la population israélienne prend conscience qu'à force d'avoir ignoré les Palestiniens et accepté le sort des Palestiniens, ben, tout d'un coup, il y a une monstruosité qui arrive et arrive au pouvoir une extrême droite raciste, suprémaciste juive. Il y a des suprémacistes blancs, il y a des suprémacistes de tous ordres. Et qui est homophobe aussi. Tel Aviv est une ville gay-friendly, et aujourd'hui, il y a un pouvoir qui veut aussi s'en prendre aux droits des gays. Et donc, tout d'un coup, ils prennent conscience de ça. Et du coup, ils prennent conscience que ce pouvoir peut s'en prendre à la justice, peut s'en prendre à la presse, peut s'en prendre, etc. Mais ils en prennent conscience trop tard, parce qu'en ne s'occupant pas de l'autre... Et donc, le message aussi de ce livre, c'est de se dire que la meilleure façon de résister à l'extrême droite, c'est d'abord de s'occuper des autres. C'est d'abord d'aller vers les autres. C'est de ne pas s'enfermer en soi-même. C'est ce que Édouard Glissant appelait l'identité-relation. Nous avons tous une histoire propre, mais il n'y a d'identité que de relation. C'est en allant vers l'autre que je me découvre moi-même comme faisant partie du genre humain. Je change et changeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant, disait-il. Et donc, nous sommes dans... Pour moi, c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de chagrins politiques qui sont légués à vos générations par ma génération. Beaucoup d'échecs, beaucoup d'impostures, beaucoup de corruption. Mais il n'y a aucune raison que vous soyez embarrassé par tout ça. Parce que cette époque qui nous met à l'épreuve, elle rajeunit tous nos idéaux. Elle les libère de tout un fatras d'ismes, de théories, d'autoritarisme politique, d'avant-gardisme qui prétendait savoir mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. On a rendez-vous avec l'essentiel. On a rendez-vous avec l'égalité. On a rendez-vous avec les causes communes de l'égalité. On a rendez-vous avec les droits humains. On a rendez-vous avec la conscience du genre humain. Donc c'est une belle bataille. Et on la gagnera. Parce que ce monde est perdu.
Merci au BEA d'avoir organisé cette conférence, à Adam Assaoui pour la modération, aux étudiants et étudiantes en master de journalisme pour la captation et à Philippe Delchambre pour le mixage.